pour se retourner pour faire le bilan des années qui se sont écoulées, pour embrasser d'un coup l'ouvrage de toute une vie, le résultat de quelques dizaines d'années d'existence. C'est une expérience souvent très mélancolique, où l'on pense aux années qui ont passé si vite, sans se faire remarquer. C'est le temps où l'on est amené, bon gré mal gré, à méditer furtivement sur le pourquoi de la vie, l'angoissante incertitude de demain, l'implacable certitude de la mort. On a connu des peines, des grandes douleurs, des joies aussi. On a côtoyé beaucoup de monde, on s'est fait des amis et peut-être des ennemis. On a aimé, on a méprisé, construit et démoli. On a fondé un foyer, élevé une famille. Bref, tout le cortège banal d'événements qui marque toute vie d'homme. Une vie qu'on voudrait aussi longue que possible et où l'on s'est efforcé d'être aussi heureux que possible. Mais en définitive, si vivre n'est que cela, si vivre n'a pas d'autre objectif que celui d'exister, certains philosophes modernes n'ont pas tort de dire que l'existence est absurde. D'autres penseurs, moins pessimistes, se sont efforcés de donner un sens à la vie, ou plutôt de découvrir le sens qu'elle doit avoir pour échapper à l'absurdité. Il y a par exemple l'écrivain Saint-Exupéry, qui situe le but de l'homme en dehors de lui-même. Il déclare qu'en travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre, qui ne procure rien qui vaille la peine de vivre. Et puis il tire cette conclusion importante, ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. Il y a cet autre écrivain, Charles Morgan, qui se dit « Il me semble qu'on résout le problème de la vie quand on a découvert ce qui doit prendre le premier rang. » Ces quelques citations parmi des centaines d'autres sont une expression de l'homme à la découverte du mystère qu'il est, à ses propres yeux, de l'homme à la recherche d'un but, d'une explication. Personne ou presque personne n'ose se prononcer catégoriquement sur ces questions fondamentales. C'est un domaine où l'on tâtonne dans la pénombre d'une ignorance presque totale. En définitive, qui peut nous expliquer quel est le sens de la vie, sinon celui qui a fait la vie? Mais ce sont là des explications que l'on dédaigne, dont on se méfie, voire que l'on ridiculise. Elles n'en demeurent pas moins vraies et efficaces pour qui préfère les accepter avec confiance. C'est ici qu'intervient la personne du Christ dans la vie de chaque homme. Le message du Christ au monde est d'abord un message à l'homme en tant qu'individu. Chaque homme a reçu un certain capital fondamental qui s'appelle temps et talent. Le temps, le talent et toutes les formes de dons, de possibilités et d'opportunités qui font partie de la vie de chaque homme constituent ainsi un investissement du Créateur en sa créature. Non seulement en sommes-nous les dépositaires, mais aussi et surtout les régisseurs, c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que Dieu nous a confié. L'écrivain cité plus haut avait justement remarqué qu'on résout le problème de la vie quand on a découvert ce qui doit prendre le premier rang. L'important est de savoir ce qui mérite le premier rang. C'est là où les hommes formulent toutes sortes d'hypothèses, de théories, de suppositions, d'opinions diverses et contradictoires. Salomon dit très justement dans ses proverbes « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » C'est au sein de cette confusion, de cet tâtonnement, de ces incertitudes humaines que le Christ intervient pour nous dire avec l'autorité qui caractérise tous ses prononcements « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est-à-dire, inquiétez-vous d'abord de faire ce qui plaît à votre Créateur. Voilà le sens que doit avoir votre vie. Et pour illustrer la responsabilité de chaque homme dans la gérance des biens que Dieu lui a confiés, voici l'illustration qu'il utilise. Je cite un texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui à qui le maître avait confié 5 talents en avait gagné 5 autres. De même, les 2 talents de l'autre en avaient produit 2 supplémentaires. Le maître les accueillit avec honneur, car ils avaient été de bons et fidèles serviteurs. Cette parabole du Christ est une réponse précise à notre question. Que sommes-nous venus faire dans ce monde ? Nous sommes venus pour servir un maître, en gérant les biens qu'il nous a confiés, dans le temps qu'il nous a alloué. Dans la parabole, le mot « talent » désigne une grosse somme d'argent, équivalente à plusieurs kilos d'or. Chez les Grecs, un talent pesait 26 kilos. Mais il est tout à fait légitime, dans le cadre de cette parabole, de donner au mot « talent » une signification plus vaste. Les talents, c'est tout ce qu'un homme a comme aptitude, comme don, comme possibilité, comme opportunité. C'est tout ce qu'un homme est et tout ce qu'il peut devenir. Ce capital est diversement distribué parmi les hommes. Tous ne reçoivent pas la même somme. Ils ne sont pas tous considérés, apparemment, de la même manière. Mais aux yeux du Seigneur, aux yeux du Maître, ils sont tous des serviteurs. Chacun est chargé de faire fructifier son bien, en attendant le retour du Maître et pour sa gloire. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est l'effort en fonction de ce que l'on a à sa disposition. Il faut noter que l'homme aux 2 talents a été honoré au même titre que l'homme aux 5 talents. En quantité, il a produit moins que l'autre, mais la qualité de l'effort est identique, car tous deux ont agi selon le capital dont ils disposaient, selon sa capacité, comme dit Jésus. Ils ont fidèlement géré leurs biens. Par contre, le serviteur auquel le maître n'avait confié qu'un seul talent ne s'est pas inquiété de le faire fructifier. Jésus dit qu'il est allé le cacher dans la terre pour le remettre tel quel à son maître dès son retour. Le maître qualifie ce serviteur de paresseux et d'inutile, et il donna l'ordre de le jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Paresseux et inutile, parce qu'il n'a pas fait son devoir de serviteur. Il s'est peut-être dépensé en toutes sortes d'activités, mais il a négligé l'essentiel, à savoir produire des fruits pour le maître. C'est là une des caractéristiques principales du message chrétien, le développement de l'individu dans le sens de l'esprit. Quel que soit cet individu, pauvre ou riche, influent ou obscur, doué ou ordinaire, chacun doit faire usage de ce qu'il a et de ce qu'il est, dans une direction précise. Je voudrais lire un texte maintenant dans notre Bible, au chapitre 5 de ce même évangile de Matthieu. Jésus dit ici, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le sel de la terre est un agent de conservation. L'homme doit, par sa vie, par ses biens, par ses aptitudes, contribuer à endiguer la corruption qui menace le monde, au lieu de contribuer à cette corruption par sa défection. La lumière du monde est un agent de vie, d'harmonie et d'intelligence, car elle dissipe les ténèbres de l'ignorance. Elle est un point de repère, une direction pour les égarés. Elle éclaire le chemin des hommes, en leur rendant conscience de leur âme et de leur responsabilité à l'égard de Dieu. Voilà ce que doit tout homme. Voilà le sens de la vie de chaque homme. Voilà la tâche confiée à l'homme par le Créateur. Toute autre direction ne mènerait qu'à l'échec. Devant Dieu, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Il n'y a que des serviteurs. Certains ont reçu beaucoup et à d'autres, on a confié peu de choses. Mais cette diversité dans la répartition n'implique pas injustice, car il est dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Aux yeux de Dieu, il n'y a que 2 sortes d'hommes, les bons et les mauvais serviteurs, les gérants fidèles et les gérants paresseux de ses biens. Heureux l'homme qui a ainsi résolu le problème de sa vie, en découvrant que son rôle primordial est de servir Dieu dans sa famille, dans son travail, par son savoir, par son intelligence, par son énergie, par sa vie. Heureux l'homme qui peut prier ainsi en notre 20e siècle trépidant. Seigneur, je ne te demande pas ce soir le temps de faire ceci et puis encore cela. Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse.